La manipulation des populations par les économistes, avec Jean-Michel Servet.
Donc peut-être vous dire d'où je parle, hein, parce qu'on parle toujours d'un certain lieu. Alors je suis un ancien Lyonnais et après 2000, j'enseignais à l'université Lumière Lyon 2 l'économie, l'histoire de la pensée économique et on travaillait sur les systèmes d'échange local, enfin tout un tas d'éléments alternatifs, donc sur les deux champs. Et ça va peut-être faire venir la personne pendant que je présente. En 2002, j'ai décidé, ne supportant plus le fonctionnement de l'université française, d'être en affectation en Inde, où j'ai fait du terrain sur le microcrédit, les prêts pour les pauvres et ensuite la microassurance. Et puis j'ai eu l'opportunité d'être nommé à Genève. Alors je pouvais avoir des craintes puisque je m'appelle Jean-Michel Servet et il y a un Michel Servet d'origine catalane qui a été brûlé vif à l'instigation de Calvin. Alors c'est toujours dangereux, hein, voyez, d'aller dans un lieu. Mon nom, en quelque sorte, sur Genève n'est pas complètement inconnu et un peu chargé, je dirais. Et puis j'ai terminé ma carrière à Genève en prenant ma retraite en 2016. Entre les deux périodes, j'ai subi une fusion d'institutions. J'étais arrivé dans un institut universitaire d'études du développement qui était tiers-mondiste, en fait, etc., et on nous a fusionné dans la proportion d'un tiers, deux tiers, avec un institut, Hautes Études Internationales, fortement lié à la grande banque genevoise. Vous voyez ce que ça peut donner, etc. Donc j'ai passé de 2008 jusqu'à 2016 un certain nombre d'années de repos qui m'ont permis de beaucoup travailler. Vous savez, c'est-à-dire que quand vous avez seulement 4 heures de cours à faire par semaine, et une réunion par mois du collège de profs pendant lequel vous faites vos emails, ça vous laisse le temps de lire sur différents sujets. Et comme j'ai pas mal d'anciens doctorants, doctorantes, etc., qui ont des positions, ça m'a permis. Donc j'ai eu on croyait me détruire, mais ça m'a permis de passer du bon temps à travailler. Voilà ce que je dirais. Et ça m'a permis aussi d'observer de près ce qu'était la pensée néolibérale, puisque les collègues dominants dans un institut sont d'obédience néolibérale, même s'ils ne se réclament pas de la chose et même si c'est en quelque sorte un néolibéralisme masqué, c'est-à-dire qu'ils croient être empiristes, mais comme ils ont les idées dominantes du temps, en fait, ils sont néolibéraux. Donc je les ai vus de près. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit cet ouvrage qui s'appelle « L'économie comportementale en question », parce que j'ai vu, en quelque sorte, un certain nombre de... Il y a une chaise devant, deux sièges là, hein, pour ceux qui sont au fond, hein, vous mettez les vêtements qui se trouvent là, ici, pour éviter de rester debout. Donc... ce dont je vais vous parler, je l'ai vu de près, en quelque sorte, hein, fonctionner. C'est bon. Alors, depuis, je dirais, les années 2000, il y a un nouveau courant qui est apparu parmi les économistes, qu'on appelle le comportementalisme, le nouveau comportementalisme, voilà. Et l'objectif de ce mouvement de pensée est double. C'est tout d'abord de s'extraire, de sortir de ce qu'on appelle communément, je pense que vous avez déjà entendu cette expression, l'homo economicus, hein, c'est-à-dire cette espèce d'atome, microscope, enfin, etc., hein, qui serait supposé rendre compte des actions humaines. Et puis, donc ça, c'est je dirais, l'aspect intellectuel, scientifique, mais ce n'est pas seulement un discours. Ces gens pensent qu'il faut, en quelque sorte, améliorer le monde. Tout le monde pense qu'il faut améliorer le monde, évidemment. Enfin, rares sont ceux qui pensent qu'il faut le réduire. Et à partir des représentations qu'ils donnent, eux, de l'action humaine, ils affirment qu'il est possible d'agir sur les contemporains, notamment les, les plus pauvres, afin qu'ils aient de bons comportements efficaces pour eux-mêmes et pour la société dans son ensemble. Et comme ils vantent en quelque sorte, ils vantent et ils vendent ce genre de produits, hein, quand on vous propose d'améliorer le fonctionnement de la société, que les gens, je donnerai des exemples, que ça tourne mieux en quelque sorte dans la société, ça explique comment, pourquoi ils sont soutenus par des pouvoirs publics, par des entreprises... et par des fondations, par exemple celle de Bill Gates. Hein. C'est-à-dire que des éléments dominants dans la société les soutiennent financièrement. Je donnerai quelques éléments sur cet aspect financier de cette pensée. Donc voilà, vous avez un nouveau courant de pensée qui vous dit « Nous, on n'est pas comme les vieux économistes, etc. et l'homo economicus ». Je montrerai que ça me paraît limité. Et on va faire en sorte que ça fonctionne mieux dans la société. Et que ça fonctionne mieux sans contraindre les gens. C'est-à-dire sans vous voyez, la brutalité. Vous avez peut-être en tête de ce qui s'est passé au cours du XXe siècle sur les contraintes pour améliorer le fonctionnement de la société. Hein. Donc on faisait subir des contraintes sur les populations. Là, ils disent non, non, il ne faut surtout pas les contraindre, il faut les inciter à adopter des bons comportements. C'est pour ça, je crois que ça a été retenu dans le terme, qu'on peut parler de manipulation, en quelque sorte, des populations. Ce que je vais faire ici, c'est essayer de montrer les limites, les préjugés de ce genre d'approche, et puis aussi que c'est quelque chose d'extrêmement coûteux financièrement, et que tout compte fait, c'est peu efficace pour résoudre les enjeux et les problèmes les plus importants des sociétés dans lesquelles nous vivons. Voilà l'enjeu, hein, c'est une ambition assez forte. Alors, ce comportementalisme comprend deux, disons, courants, sous-courants, qui ont donné lieu à deux prix dits Nobel d'économie. On dit prix Nobel d'économie, pour ceux qui le savent, parce que le descendant de Nobel proteste chaque fois, vu le type de personnages qui ont le prix. Enfin, il dit c'est scandaleux, jamais mon grand-père ou mon arrière-grand-père hein, n'aurait donné un prix. C'est en fait un prix de la Banque de Suède, hein, quelque chose comme ça, mais on l'appelle prix dit Nobel. Donc il y a deux Nobelisés avec un an d'écart qui appartiennent à ce courant que je décris comme comportementaliste. Le premier courant est représenté par le prix Nobel 2017. Donc, il y a d'autres hein, qui sont avec lui, mais enfin c'est emblématique, il s'appelle Richard Thaler. Hein, donc. Et l'autre prix Nobel a été attribué simultanément à trois personnes, dont une, on en a plus parlé en France, parce qu'elle est franco-américaine, elle s'appelle Esther Duflo. Hein. Donc vous avez deux, et il représente deux courants différents. Alors, le premier courant, les liens que ces courants ont avec les autorités politiques se traduisent, par exemple, que Richard Thaler a été conseiller du Premier ministre David Cameron hein, pour implanter au Royaume-Uni, disons, un meilleur fonctionnement des mesures prises. Et Esther Duflo faisait partie d'un comité mis en place par le président Obama. Hein, donc voilà, pour les situer. Alors, quelle différence il y a entre ces deux courants qui ont des techniques, je dirais, différentes d'intervention pour comprendre comment les choses fonctionnent. Le premier courant, celui de Thaler, se fait essentiellement par des tests en laboratoire. Hein. C'est-à-dire qu'on prend des individus. Alors le problème, c'est que c'est souvent les étudiants des profs, vous voyez. Comme s'ils étaient... Oui, comme il y a un humain en général, on présume que vous pouvez vous faire jouer le rôle du pauvre à un étudiant issu, vous voyez, des couches assez aisées de la société américaine, parce que ces gens-là sont... Vous voyez, quand vous êtes au MIT, c'est pas des petites universités, vous voyez, en général. Bon, il y a des bourses, mais enfin, quand même, hein, en général, c'est pas les plus pauvres des plus pauvres, hein, qui sont... Donc, vous voyez, on fait jouer en laboratoire comme s'ils étaient pauvres. Et on regarde comment ils réagissent. Vous voyez ce que c'est qu'une étude en laboratoire, y compris parfois en leur mettant des trucs sur la tête pour voir s'ils réagissent plus ou moins vite quand on leur présente un certain nombre de choses, ou ils les font jouer aussi dans leur salle de cours, en leur distribuant, vous voyez, des crayons, des chopes, ils regardent comment ils les échangent pour voir quelle serait leur réaction quand on distribue quelque chose. Ça, c'est le premier courant, et vous avez dans ce courant-là, par exemple, restons lyonnais, à Écully, il y a un laboratoire du CNRS où on fait venir des gens en les payant même donc, pour avoir des tests de ce type. Hein, la directrice qui a lancé beaucoup de choses de ce type s'appelle Marie-Claire Villevalde, je pense que certains ici... Non, tu te rappelles pas. Je reconnais un de nos anciens collègues. Et donc voilà, donc c'est derrière des ordinateurs, hein, en fait, et puis on regarde comment ça se passe de façon abstraite, en quelque sorte. Et l'autre type d'action, d'intervention, c'est ce qu'on appelle sur le terrain. C'est-à-dire qu'on fait, donc c'est ce que fait Esther Duflo, hein, et toute cette équipe MIT, et c'est la principale groupe scientifique à faire ça, eh bien, vous prenez un terrain et puis vous arrangez pour sélectionner au sein de ce terrain, hein, ça peut être des villages, des quartiers, etc., deux populations supposées identiques d'après leurs caractéristiques, et puis vous leur donnez un service ou un bien aux uns, et puis aux autres, vous ne donnez pas. Hein, où vous distribuez le même bien et service selon des modalités différentes. Et puis, vous regardez ce qui se passe. Si c'est efficace, bon, etc. Vous leur distribuez des moustiquaires et vous regardez s'ils utilisent véritablement les moustiquaires ou, comme on l'a constaté parfois, ils mettent les moustiquaires pour protéger les chèvres, parce que c'est quand même plus important d'avoir des chèvres qui produisent que des humains qui aient le paludisme. Donc, vous voyez, donc voilà, hein, ils étudient ce genre de choses. Donc, c'est une expérimentation supposée agir sur le réel, puisqu'on est sur un terrain. Alors, comme il n'est pas toujours possible, vous voyez, je le dis immédiatement, de faire des tests qui ressemblent aux tests de médicaments. Hein, parce que ce que je viens de vous décrire, c'est un médicament. Hein. Vous ne vaccinez pas, et vous regardez si les gens sont protégés ou ne le sont pas. Seulement, ça s'appelle un effet placebo. Seulement, en médecine et en médicaments, il est quand même possible de faire l'effet placebo. Je regrette infiniment, pour un prêt bancaire, il est difficile de faire l'effet placebo, hein, parce que vous avez le prêt ou vous ne l'avez pas. Hein, donc, il y a quand même un certain nombre de choses. Vous voyez, et ce qui est d'ailleurs très, très curieux, et il cite, comme Esther Duflo, cite essentiellement les exemples médicaux sur s'appuyer. Or, il faut savoir que dès le début du XXe siècle, on a pratiqué des tests de ce type, donc ils font comme si c'était tout nouveau pour eux. On l'a fait, par exemple, intensément dans la période, alors plus tardif que le début du siècle passé, mais sous le président Johnson, aux États-Unis, donc au milieu du XXe siècle, pour tester les aides sociales ou les éléments de ce type. Donc il y a déjà eu, et ce qu'on peut constater, c'est qu'à l'époque, on l'avait abandonné comme technique. Donc, mais on passe sous silence. Enfin, une des caractéristiques pour moi de beaucoup de penseurs beaucoup plus jeunes que moi, c'est qu'ils sont littéralement amnésiques sur ce qui s'est fait avant. Vous voyez, je ne ferai pas de comparaison politique, mais on saute sur la modernité, vous voyez, ou alors quand on met le passé, c'est pour faire genre Mickey Mouse, là. Mais penser que bon, avoir un peu de réserve pour dire les choses, elles se sont déjà faites, pourquoi ça s'est fait, etc. C'est pas une attitude très très courante aujourd'hui. Hein. Donc, et la difficulté d'ailleurs quand on lit ces auteurs-là, c'est qu'ils ne se réfèrent quasi jamais à des auteurs anciens. Ou, je crois vous avoir dit, je suis un historien de la pensée, dans un certain nombre de cas, ils citent des auteurs comme Adam Smith, je me suis vraiment demandé s'ils les avaient lus. Hein, parce que c'est pas tout à fait ce qu'on lit, notamment dans La richesse des nations, qu'ils attribuent en quelque sorte à ce grand penseur. Hein, Alors, évidemment, les expérimentations sur un terrain apparaissent plus réalistes. Et Esther Duflo, d'ailleurs, dans un certain nombre de conférences récentes, se compare à un plombier. Vous voyez, ils seraient, les autres, ça serait ceux qui seraient ingénieurs, ils feraient des théories, tandis que, vous voyez, ils sont comme, vous avez un problème, vous appelez le plombier et il vous débouche l'évier, quoi. En gros, c'est un peu cette idée d'efficacité. Alors, je vous l'ai dit, il s'agit de guider les individus vers de bonnes pratiques sans les contraindre. Hein, c'est-à-dire, c'est l'élément. Alors, si on regarde un grand nombre... Alors, le principal laboratoire faisant les expérimentations de terrain est celui d'Esther Duflo et compagnie au MIT. Si vous regardez le nombre de... Il y a, je crois, 900 expérimentations de terrain qui ont déjà été faites en moins de 20 ans par ce laboratoire. Donc, ils en ont fait pas mal. Et quand vous regardez, une proportion très importante est dans le domaine financier, y compris en Afrique. Hein, donc ça, c'est un élément qu'on peut regarder, un de leurs champs d'intervention. Et d'ailleurs, si vous regardez également les travaux qui ont été menés par Richard Thaler, eh bien, un certain nombre sont dans le domaine financier, d'autant plus qu'il a lui-même une société de conseil financier pour des placements. Hein? Donc, il met aussi en pratique, en quelque sorte, ces éléments pour voir si les gens font achat des bonnes actions, vendent au bon moment, enfin, etc. Donc, il y a chez lui aussi. Ça me paraît tout à fait normal qu'il soit dans le domaine financier. Pourquoi ? Parce que je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous vivons un espèce d'empire de la liquidité. Nous sommes dominés par la liquidité. Parenthèse, quand certains, j'ai l'esprit un peu critique, me posent la question, mais enfin, comment sortir du capitalisme ? Ma réponse est simple, il n'y a pas de problème, on en est déjà sorti. Oui, parce que le capitalisme ancien, fondé sur l'exploitation de salariés, n'a rien à voir, à mon sens, avec les captations financières contemporaines qui consistent, peu en France, mais aux États-Unis notamment, que les grandes sociétés financières rachètent leurs propres actions pour faire monter les cours et évidemment ce qui leur revient. Donc nous sommes imprégnés. Hein. Je vous recommande un sociologue qui s'appelle Zygmunt Bauman, hein, qui est d'origine polonaise, mais qui a exercé une grande partie de sa carrière au Royaume-Uni. Et il a écrit des ouvrages sur la société liquide. Hein. J'avais aussi publié de manière incidente avant l'élection de Macron, l'homme de la société liquide. Et après, entre les deux tours, j'ai fait un article qui s'intitulait « Marine Le Pen, un barrage inutile ». Donc, je pense qu'on se situe dans une société de la liquidité. Donc, il est tout à fait normal que dans cette liquéfaction, leurs expériences soient pour un grand nombre sur des questions de liquidité. Alors, domine dans les deux techniques d'ailleurs une volonté du chiffrage. Nous vivons aussi dans des sociétés dans lesquelles pour prouver, il faut mesurer. Bon, même si on se livre à toutes les... pratiques possibles et imaginables pour que ça tombe juste, en quelque sorte, hein, pour les résultats sont, je ne sais pas dire manipulés, mais enfin, disons, arrangés. Enfin, hein, eh bien, eux, ce qui compte, ce n'est pas d'expliquer, c'est de prouver par le chiffre. Et ça fait un certain nombre d'années qu'on gouverne par ce système-là. Dans une vie antérieure, tout en étant prof ici d'ailleurs, j'ai été expert de la Commission européenne pour la préparation du passage à l'euro pour les pauvres, les handicapés, les personnes âgées, etc. On faisait des modèles, enfin des modèles intellectuels, voilà, et puis après on confiait ça à des sociétés statistiques pour qu'eux y prouvent. Parce que les autorités... Hein, ne croyait qu'au chiffrage. Donc si on voulait faire passer les idées, il fallait qu'elles soient présentées sous des formes modélisées, statistiques. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Supio, qui est prof au Collège de France, dont je vous recommande les travaux, parce que lui, vraiment, étudie de près, c'est un politique, hein, au départ, enfin politique, il est spécialiste de sciences politiques, et il montre cette domination du chiffrage. Et... cette domination du chiffrage, eh bien, on le trouve en quelque sorte, hein, dans les travaux de ces comportementalistes. Ils ne vous expliquent pas des causes, ils vous présentent des résultats statistiques. Et vous dites, ah ben oui, mais ce n'est pas parce que vous avez tel résultat qui est, vous voyez, que vous pouvez mettre en parallèle avec autre chose, que l'autre chose est la cause de ce résultat. Seule la pensée et la théorie peuvent prouver qu'il y a une relation. Le constat statistique de deux éléments, même si ça vous paraît a priori évident, mérite d'être prouvé. Et ce n'est pas comme cela qui fonctionne. Alors, quelque chose d'intéressant à noter aussi dans cette approche, hein, commune aux deux, c'est que l'approche... elle part non pas de la société, elle part de l'individu et des biais supposés de cet individu. Alors, les biais, par exemple, c'est l'aversion à la perte. Les gens, disent-ils, surestiment les pertes qu'ils subissent par rapport à des gains. Le problème, c'est qu'il l'universalise, hein, ce genre de choses. J'ai une formation d'anthropologue, donc en tant qu'anthropologue, j'ai entendu parler du potlatch, et donc de la destruction volontaire des biens en donnant aux autres. C'est complètement opposé. Donc il y a des humains sur la planète qui ont une façon de vivre généreuse. Cette générosité, elle se fait dans des rapports de domination, hein, aussi. Il ne faut pas penser que, mais je veux dire, d'un point de vue, vous voyez, ils distribuent, dilapide en quelque sorte, donc ils n'ont pas d'aversion à la perte, bien au contraire. Donc, ça s'appelle un potlatch. Hein. Et ce genre de comportement de potlatch, on peut le trouver dans tout un tas de populations à travers notre planète. Donc, oui, prétendre qu'un individu qui a toujours une aversion à la perte et donc qui n'aurait jamais une générosité, ça me paraît un peu douteux. Il y a beaucoup de travaux d'anthropologues aujourd'hui qui ont porté sur ce qu'on appelle le partage, notamment sur les populations de ce qu'on appelle des chasseurs-collecteurs. Et ils ne sont pas des dons contre dons, hein, mais au départ, le gibier est pensé comme appartenant au collectif. Et ensuite, on réfléchit comment on le répartit. C'est à un point tel, d'ailleurs, que ce n'est pas celui qui, avec sa flèche, a tué l'animal qui bénéficie de cet animal. Il est servi le dernier. Et on peut penser que pendant... les êtres humains qui nous ressemblent doivent à peu près avoir 60 000 ans. Hein. C'est la durée du type de langue que le Néandertal parlait déjà, mais de façon différente. Donc ça fait des dizaines de milliers d'années, et pendant des dizaines de milliers d'années, nos ancêtres, les chasseurs-collecteurs, se sont comportés de cette façon-là. Donc, nous dire que, il y a une aversion à la perte, et vous voyez, l'individu sera en quelque sorte naturellement égoïste, Bon, ce n'est pas du tout prouvé, et eux, ils le prennent comme si c'était, en quelque sorte, parole, excusez-moi l'expression pour certains, d'évangile, en quelque sorte. Hein, il y aura un évangile économique, en quelque sorte. Bon, alors, à mon sens, aussi, ils ont un des grands thèmes sur lequel ils portent, c'est ce qu'on appelle la procrastination. Alors, je n'interroge pas pour savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire reporter au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Je vais faire un régime amaigrissant. Oui, oula, ce chou à la crème, il est quand même pas mal. Ouais, je commence demain. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça, hein, ce comportement. Donc, vous l'avez tous vécu, pour ceux qui fument et qui veulent s'arrêter de fumer, ils voient sans doute ce que je veux dire. Donc, pour un certain nombre. Donc, il y a cette idée de reporter au lendemain. Et là encore, ils en font en quelque sorte un universel du comportement humain en tout lieu et en tout temps. Je dirais d'une certaine façon que leur façon de penser, c'est pour chasser les biais qu'ils sont supposés avoir. Ça me fait penser à la condamnation des péchés capitaux au Moyen-Âge. Vous voyez, il fallait lutter contre les péchés capitaux. Eh bien, les péchés capitaux, vus par ces comportementalistes, ont un caractère économique. Mais c'est un peu là, j'ai parlé de péchés capitaux, ça en fait fuir certains. Donc, alors, quels sont les domaines dans lesquels on a appliqué ce genre de test? Et je dirais même avant les nouveaux comportementalistes, etc. Mais eux, ils ont continué. Je vous ai dit, la finance est quelque chose de très, très présent. Mais, par exemple, ça s'applique en domaine agricole pour tester des engrais et des semences. Hein, on regarde sous certains produits, etc. En matière d'éducation, il y a sans doute des prophéties. C'est comment réduire l'absentéisme des enseignants. Alors, par exemple, vous voyez, les techniques qu'ils utilisent pour voir, c'est est-ce que c'est efficace de mettre une caméra dans la salle pour voir s'il est bien présent. Ben oui, il y en a qui ont inventé ce genre de choses. Vous voyez, quelle est l'efficacité en matière de résultats scolaires de faire porter des uniformes aux scolarisés? Oui, c'est ce genre de questions qui se posent. Il y a aussi quelque chose d'assez... c'est le premier test connu des nouveaux comportementalistes apporté sur les vermifuges en Afrique de l'Est. Quels sont les effets des vermifuges sur l'absentéisme scolaire des enfants? Donc, c'est très simple. Hein, là, ça part d'ailleurs, vous voyez, le parallèle avec les médicaments. Vous donnez des vermifuges à certaines écoles, etc. Voilà. Vous donnez pas dans d'autres. Et vous regardez les effets. Et ils ont tiré comme conclusion, il n'y a peut-être pas besoin de faire une étude poussée pour s'en douter, que si vous donnez des vermifuges aux enfants, ils sont plus présents en classe. Donc voilà, des conférences, banco, regardez, vous voyez, ça ne coûte pas cher les vermifuges, enfin imaginez, vous voyez, le succès que vous pouvez avoir. Seulement, il y a un malpensant dans mon genre qui a été, après, étudier les résultats scolaires. Il n'y a pas de corrélation entre la présence en classe et, vous voyez, dans les mêmes endroits, et les résultats scolaires. Or, il y avait en quelque sorte un préjugé et un présupposé qui disait si les gens sont plus présents, eh bien les résultats des classes sont meilleurs. Bon. Donc, il faut toujours aller en profondeur pour voir les effets. Ils se sont aussi, une action assez importante a été menée. C'est pour vous donner des exemples. Sur quel est l'état de santé des gens si vous mettez des moustiquaires avec un insecticide tuant les moustiques. Et donc, ça améliore l'état de santé de la population de mettre des... Et donc, même, c'est là où ils sont modernes, ils conseillent même de les distribuer gratuitement vu l'effet produit. Seulement, il y a quelqu'un qui est un peu mal pensant, qui a été étudié l'insecticide qu'on mettait dans ce test, extrêmement néfaste pour les femmes enceintes, et ça produit des malformations chez les nouveau-nés. Voilà. Donc, il ne suffit pas comme ça de faire un test. Il faut aller et prétendre être réaliste. Il faut aller jusqu'au bout du réalisme. Alors, par exemple, en matière de lutte contre la pauvreté, dans mon ouvrage « L'économie », j'y consacre un chapitre entier, c'est un exemple de ce type, c'est la lutte contre le cash. Vous savez, c'est très à la mode, hein. Il faut supprimer le cash, dématérialiser l'argent, vous voyez, donc c'est au nord et au sud, vous avez tous... Je vous signale qu'on nous servait cet exemple en France en prenant un exemple suédois. La Suède abandonne le cash. Hein, donc, vous voyez, en disant, il faut être moderne là encore, hein. Il y avait un projet... Enfin, les gilets jaunes et autres événements qui sont produits en France ont évité, parce qu'il y avait un projet pour 2022 à supprimer le cash en France. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ça avait été révélé. J'avais fait avec des collègues un article dans Le Monde pour dire, mais ils sont devenus fous. Mais bon, donc il y a eu quelques événements qui ont supprimé ça. Mais je vous signale l'exemple qu'on nous servait de la Suède au courant janvier, le Parlement suédois a voté une loi pour le rétablissement du cash. D'ailleurs, il suffisait de faire des sondages en Suède pour savoir que les gens utilisaient de moins en moins le cash, effectivement. Mais 70% des Suédois étaient contre la suppression du cash. Enfin, nous, on avait fait un article. Donc, eux, ils ont fait tout un tas de tests favorables à la suppression du cash parce que, en 10 ans, si les gens mettent sur des comptes, y compris les pauvres, hein, ils vont épargner plus. Et l'épargne est une vertu, supposée. Hein, donc, il fallait qu'ils épargnent. Alors, bon, pour vous dire, l'IRE, alors c'est une collègue de Genève, hein, jeune collègue de Genève avec un belge là, qui ont fait une étude dans l'Inde. En Inde, alors j'ai vécu en Inde, pas à l'endroit où ils ont fait leur test. Mais enfin, quand même, quand j'ai lu leur étude, j'ai écrit à un collègue de la London School of Economics, que je connaissais par ailleurs, et j'ai dit, mais il y a un truc curieux, ils étudient l'épargne, et ils ne tiennent pas compte de l'or et de l'argent métal que les gens, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils étudiaient l'épargne uniquement monétaire, alors que dans l'Inde, en général, eh bien, une grande partie de l'épargne se fait sous forme d'or et d'argent. Donc, tant à être réaliste, il faut quand même tenir compte des éléments de ce type. La réponse du collègue a été, je vous traduis, c'est évidemment en anglais, il m'a répondu que toute étude en Inde concernant l'épargne et ne tenant pas compte de l'or et l'argent était douteuse. Bon, très bien, donc ils font ça. Il y a aussi quelque chose d'assez amusant, si j'ose dire, dans leur étude. Vous voyez, je vous donne ces détails pour dire à quel point ils prétendent être réalistes, mais quand vous vous mettez à creuser, le réalisme est limité. Là aussi, ayant vécu en Inde, je connais les comportements des populations, et il y avait quelque chose de très curieux, c'est-à-dire que l'argent était mis sur un compte et on comparait qu'entre la distribution de cet argent était faite sur le compte et quand il était distribué en cash. Et on constatait que quand il était en cash, les gens dépensaient plus, enfin dépensaient entre guillemets. Mais par exemple, en étudiant les questions posées, les éléments de ce type, etc., je me suis aperçu que si quelqu'un reçoit de l'argent et le prête à quelqu'un d'autre, c'est assimilé à une consommation. Or, je regrette... Oui, parce qu'ils n'en tiennent pas compte. Or, je regrette infiniment, si vous prêtez de l'argent à quelqu'un, c'est une créance, et donc c'est une forme d'épargne. Hein? Donc, c'est... cet élément. Aussi, un autre élément, vous voyez, je donne des petits détails de ce type, mais vous faire comprendre, en quelque sorte, les biais qui sont dans ces appréhensions. Il y a toute une série d'études qui conduisent à la nécessité d'une éducation financière des populations. Alors, ils vont dans le Gujarat, hein, c'est l'état du Premier ministre indien actuel et de la famille Gandhi, hein, par ailleurs. Donc, ils font des tests, etc. Et dans les tests, il y a des questionnaires aussi qui accompagnent les tests. Alors, la question est la suivante. Si il y a deux frères, il y en a un qui reçoit 10 000 roupies tout de suite et il y en a un qui reçoit 10 000 roupies dans un an et demi. Quel est celui qui reçoit le plus? Alors évidemment, tout occidental normal, en quelque sorte, et ceux qui posaient les questions y étaient apparentés, même s'ils étaient indiens, si vous voulez. Ils répondent, ben, il vaut mieux tenir que courir. Celui qui reçoit le plus, c'est celui qui l'a tout de suite. Et donc, ils tiraient comme conséquence, vous voyez, les biais des populations, ils n'ont pas l'idée de la valeur de l'argent à travers le taux d'intérêt. Seulement, quand vous avez vécu un peu en Inde, et que vous n'êtes débarqué pas comme ça pour faire des questionnaires sur les populations, vous découvrez une chose. La somme était de 10 000 roupies. 10 000 roupies, ça correspond à quoi en Inde, dans des populations pauvres ? Ça peut correspondre au mariage de la fille. Vous savez, quand vous avez votre fille qui se marie, vous devez donner une somme assez importante. Ou ça correspondait aussi au prix d'une opération. Et donc, un Indien qui reçoit 10 000 roupies tout de suite, il a peur de le dépenser, alors qu'il sait qu'il risque une opération de lui-même ou d'un proche, ou qu'il va avoir une fille à marier. Donc il est tout à fait normal qui préfère avoir l'argent plus tard que l'avoir tout de suite. Vous voyez ce mécanisme, c'est dans la logique des contraintes que cet Indien subit. Il n'est pas ignorant, il subit des contraintes et il faut en quelque sorte... Parce que s'il a la certitude d'avoir 10 000 roupies dans un an ou deux ans, hein, un an et demi, il peut aller chez ce qu'on appelle un financier, je n'aime pas le terme français, c'est usurier, pour se faire prêter de l'argent, parce qu'il aura la garantie de rembourser dans cette période-là. Donc, avoir une garantie de recevoir à l'échéance une somme, c'est la garantie de ne pas la dépenser. Ça veut dire qu'il n'y a pas de biais, il n'y a pas d'ignorance de ces populations. Il y a un système de contraintes différent. Et il faut pratiquer une ethnologie de terrain et de vécu de la population pour décrire, enfin pour saisir ces éléments-là. Le problème, c'est que dans la plupart des études qui sont faites par les comportementalistes sur le terrain, ils débarquent de pays étrangers très diplômés. Alors là, il n'y a pas de problème, hein, c'est MIT et compagnie. Hein. Il n'y a pas de souci, hein, sur leur niveau de diplôme, leur capacité de traiter des données, etc. Mais ils n'embauchent pas, ils n'intègrent pas dans leur équipe de recherche des chercheurs locaux qui, à mon sens, sont bien moins diplômés, mais seraient capables de leur dire. Ils n'ont pas confiance dans ces chercheurs-là. J'ai évalué donc, un projet de recherche de ces gens-là il y a quelques années qui était sur les phénomènes d'adoption au Sénégal. Et je me suis aperçu, il y avait une convention qui prévoyait avec une équipe locale sénégalaise. Tous les traitements de données, alors, devaient être refaits en l'occurrence à Paris, ou à Bruxelles, je ne me souviens plus, à Bruxelles. Tout. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune confiance dans les chercheurs locaux, alors que ça aurait pu être une opportunité de former des chercheurs locaux, hein, cet élément-là. Alors ces projets, c'est par exemple en France, hein, il y a un test en Gironde, mais on n'en entend plus parler parce que c'est en 2018, il y avait, avec la fondation Jean Jaurès, c'est-à-dire quelque chose qui est quand même assez à gauche, hein, eh bien, un test sur le revenu universel d'existence qui aurait dû être fait dans le département. J'ai écrit, je n'ai pas encore eu de réponse, hein, parce que je voulais savoir auprès du président du Conseil général de la Gironde pourquoi ça n'avait pas eu lieu. Bon. Le même test, à peu près similaire, doit avoir lieu dans la ville de New York, dirigé par une des grandes célébrités du microcrédit qui s'appelle Murdoch. Alors, les tests sont infinis. Il y en a un, par exemple, pour encourager les gens utiliser des pompes pour les excréments dans les fosses. Hein, que les gens payent en quelque sorte ce genre de service. Comment les inciter à faire ? Alors moi, ce qui m'a amusé dans leur étude, ils ne se sont jamais posé la question de pourquoi on n'installerait pas des égouts. Ben oui, c'est comme ça que se sont développés Londres, Paris et les grandes villes. C'est pas en ayant des trucs qui vont pomper les excréments dans des fosses, vous voyez, c'est privatisé, ça peut faire de l'argent, etc. Mais je crois aux égouts comme je crois à certaines, pas toutes, hein, mais à certaines interventions publiques. Et là, c'est un exemple aussi, vous voyez, ils montrent une alternative où il y en a une autre qui pose même pas, qui s'appelle un égout. Alors, il y a des choses qui marchent, hein, d'ailleurs, très très bien. Et la chose qui marche le mieux, je ne sais pas si certains en ont entendu parler, c'est, excusez-moi du terme, je ne sais pas comment, dans les urinoirs, dans les urinoirs. Et c'est tout à fait, vous voyez, une incitation. Alors, excusez-moi, mesdames, parce que ça ne peut pas s'appliquer pour vous. Ça consiste, dans la vasque de l'urinoir, à dessiner une mouche. Et on constate qu'à 85%, nous visons mieux la mouche que s'il n'y a pas de mouche. Donc, ça réduit des trois quarts le nettoyage des toilettes. Au départ, on a fait ça dans un aéroport. Bon, moi, je crie bravo, hein. Je veux dire, si le comportementalisme aboutit, vous voyez, que les pissotières sont plus propres, vous voyez, eh bien, ouais, c'est, je crois, mieux que les moustiquaires, vous voyez, quelque chose, surtout que là, c'est pas dangereux, vous voyez, a priori, c'est cet élément. Donc, il y a aussi quelque chose, vous voyez, qui incite les gens à ne pas prendre... dans le métro, par exemple, et c'est le comportementalisme, pour que les gens ne prennent pas l'essence interdite. On constate, là aussi c'est efficace, hein, je veux dire, si vous mettez voie sans issue au lieu de mettre sens interdit, vous avez moins de gens qui le prennent. Donc, vous voyez, c'est le comportementalisme. Et pour les plus âgés qui sont ici, parce que je crois que ça a disparu, c'est pas nouveau, hein, qu'on pratique de ça. Souvenez-vous des trains. Les trains de notre enfance, on pouvait descendre la vitre. C'est plus possible pour la plupart des trains. Qu'est-ce qu'il était écrit ? Dans les langues nationales, il n'était pas écrit la même chose. Alors, par exemple, je vous dirai à la fin ce qui est écrit en français et à mon sens pourquoi. En allemand, c'était très écrit « Verboten », etc. Il est interdit. Si vous dites à un Allemand « Il est interdit de se pencher à la fenêtre », en général, il ne se penche pas. En italien, c'était écrit « pericoloso sporgersi ». Il est dangereux de se pencher. Si vous dites à un Italien « ne te penche pas », parce qu'on se tutoie beaucoup en Italie, eh bien, il ne se penche pas. En anglais, c'était marqué « please don't lean », etc. C'est-à-dire, ne, s'il vous plaît, alors vous voyez, une extrême politesse britannique. Vous voyez, là aussi, si vous êtes poli avec un Anglais, il respecte le truc. Et qu'est-ce qu'il était écrit en français ? « Ne pas se pencher par la fenêtre ». Parce que si vous dites que c'est dangereux, que c'est interdit ou vous faites l'hyperpoli, vous êtes sûr que la moitié des Français vont se pencher. Donc, vous voyez, le comportementalisme, on le pratiquait déjà sans en avoir la théorie. Hein, ça me paraît. Alors, si je regarde, j'ai encore combien de temps parce que...
10 minutes.
Après, et après, il y a les questions. Voilà, ok, d'accord. Donc, je vais essayer d'être solidaire dans le temps. Alors, la différence, parce que pour moi, ce comportementalisme est un néolibéralisme à visage humain. Et parce que le néolibéralisme, une des premiers effets du néolibéralisme, ça a quand même été le coup d'État du général Pinochet au Chili, hein, pour certains s'en souviennent. Le savent, enfin, etc. Donc le néolibéralisme, c'est il faut imposer aux gens les bonnes conduites. Là, vous avez compris ce que je dis, on ne l'impose pas. On le suggère. On incite à avoir ces bonnes conduites. Il y a une grande différence aussi dans les deux courants de pensée, mais qui se rejoignent finalement. C'est le fait que les comportementalistes se veulent pragmatiques, alors que les néolibéraux affirment la théorie. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, un des grands penseurs que je vous recommande du néolibéralisme, il s'appelle Friedrich von Hayek. Et donc, dans un texte de 1973, il a écrit la chose suivante, qui est à mon sens prémonitoire, et qui est de l'anti-duflo et de l'anti-Thaler. Il écrit la chose suivante. « Appliquer à chaque tâche les techniques sociales les mieux adaptées à sa solution, sans s'abarrasser de croyances dogmatiques, voilà ce qui semble à certains la seule façon de procéder digne d'un âge rationnel et scientifique. Ces gens qui se targuent d'être des réalistes modernes n'ont que mépris pour cet avertissement démodé. Si l'on se met à intervenir sans avoir de ligne de conduite cohérente dans le fonctionnement de l'ordre spontané, il n'y a pratiquement pas de point auquel on puisse s'arrêter. Et c'est pourquoi il est nécessaire de choisir, c'est politique, entre des systèmes incompatibles. Ils se plaisent à croire qu'en procédant expérimentalement et donc scientifiquement, ils réussiront à construire par petits morceaux un ordre désirable en choisissant pour chaque objectif désiré le moyen que la science leur indique comme étant la mieux appropriée. Je crois que c'est magnifique parce que, je veux dire, ce passage de Friedrich von Hayek, hein, qui est néolibéral, est une critique radicale du néolibéralisme appliqué, prétendu pragmatique que nous vivons. Alors, ce sont des pratiques de recherche, je tiens à dire, extrêmement coûteuses. Je tiens les chiffres de conférences d'Externe Dufaux. Une expérimentation que j'ai évoquée coûte entre $500,000 et $2,000,000. C'est beaucoup plus souvent que ce qu'on distribue aux populations. Et c'est la raison pour laquelle aucun président de la République, de Sarkozy, Hollande et même Macron, hein, il y en a beaucoup qui ont travaillé autour de Macron pour éviter qu'on dilapide les fonds publics de cette façon-là, n'a lancé cette technique. Ça devait se faire, commencer à l'automne de l'année dernière. Les événements qu'ont connu la France ont évité, si on avait diffusé les chiffres, vous voyez, que de mettre en place ce genre de test. Hein, on a préféré faire un grand débat que d'aller tester les populations. Hein, je pense, parce que quand on vous raconte, vous voyez, pour savoir si telle chose, là, ça va coûter $2,000,000, les gens se disent, non mais attendez, où on est. Donc, la France, il y avait une réunion de députés avec Esther Duflot et compagnie en juin 2018 pour lancer un centre d'évaluation à la française comme Obama l'avait fait, comme Cameron avait fait. C'est passé aux oubliettes. À l'époque, j'avais lancé avec quelques amis et on avait fait signer 50 collègues contre la mise en place de techniques de ce type. C'est paru dans Libération. Et on a signé aussi un appel, on était 12, donc 3 prix Nobel, contre la mise en place de cette chose-là. Bon, je ne dis pas que ça ait servi, mais vous voyez, on s'est dit, il faut qu'on tape fort, et Stiglitz avait signé, hein, pour ceux qui connaissent, donc il faut qu'on tape fort avec des non-connus pour dire, on ne peut pas balancer comme ça l'argent par les fenêtres pour des résultats qui, à notre sens, sont douteux. Ça ne sert pas toujours à faire des pétitions. Hein. Là, ça ressemblait un peu à une pétition. Donc, le texte avait été dans The Guardian, pour qu'il soit en anglais, et dans Le Monde. Alors, ce que je dirais, pour ne pas être trop long, la première chose, c'est les biais sur le terrain. C'est-à-dire, on vous présente, vous voyez, il y a les biais des populations, puis il y a les biais du terrain. Vous savez, les gens, si on leur fait prêt, pas prêt, ils ne sont pas plus bêtes qu'autre chose. Et ils enverront le cousin prendre le prêt dans le village d'à côté. Donc, en sciences sociales, il est impossible de faire des expériences pures, en quelque sorte. Et même, on doit tenir compte, si ici il y a des médecins, on sait que les tests médicaux sont contestés, hein, sur des techniques de ce type, effet placebo, etc. Alors que ça paraît beaucoup plus facile que dans nos domaines. Et puis, il y avait... Alors maintenant, ils se sont un peu emparés, mais il y avait l'idée de tout tester. Alors, il y a Deaton, qui a été un des prix Nobel, mais qui est opposé à ce courant de pensée, qui a dit... Mais enfin, on n'a jamais testé le parachute avec une technique de ce type, vous voyez, le parachute placebo. Donc, parce que si vous faites, vous voyez, le parachute placebo, le vrai parachute, c'est ce qu'il a déclaré, on arrive à prouver une efficacité du parachute. Donc, il y a des dessins qui ont été faits, etc., hein, qui ont été faits. Et puis, vous voyez, est-ce que, vous voyez, il y a des choix sur les moyens, je veux dire, par exemple, est-ce qu'on va tester par des techniques de ce type, comparaison au hasard, etc., le choix entre un barrage hydroélectrique, une centrale nucléaire, des plaques solaires et des éoliennes. Vous ne pouvez pas tester ça par randomisation. Ou par exemple, est-ce qu'il vaut mieux faire un TGV, un bateau, des voies ferrées, enfin autre, ou un aéroport ? C'est des choix d'équipement qui sont quand même assez importants. Vous n'allez pas les tester parce qu'ils prétendaient, mais on peut tout tester avec ça. Vous voyez, il n'y a plus de rien, vous prenez, vous avez un problème, vous l'avez. Il y a tout un tas de choses, hein, d'une part. Et est-ce qu'on teste avec des techniques de ce type le choix entre une politique où on fait des grands hôpitaux, des centres communaux de soins, des dispensaires, des unités mobiles, l'usage du téléphone portable, des soins ou du préventif? Vous ne faites pas ça avec des techniques, en quelque sorte, de ce type par randomisation. Donc il y a tout un tas... est-ce qu'on teste les soins gratuits, l'assurance privée, par exemple, par des techniques de ce type? Vous voyez, ils n'y ont pas pensé pour la réforme des retraites, vous voyez. Est-ce que vous testez, vous voyez, donc vous auriez la moitié de la France qui aurait un système, l'autre qui aurait l'autre, et puis, il y a tout un tas de choses qui sont importantes. Alors en France, pour qu'on puisse le faire, depuis un certain nombre d'années, la loi a été assouplie pour pouvoir créer, en quelque sorte, tester sur des populations limitées. C'est pour ça qu'on aurait pu tester le revenu universel sur un département ou des éléments de ce type. Bah, je crois, vu les problèmes massifs de pauvreté dans certaines zones, les changements climatiques, est-ce que vous allez révolutionner le monde à coup de vermifuges, de moustiquaires, d'un temps agricole d'un type ou des microcrédits? La réponse est non. C'est-à-dire que ce type de pensée, vous voyez, qui prétend, vous voyez, c'est très simple, on ne contraint pas les gens, etc., vous avez compris le mécanisme, c'est joli de nous raconter ça. Mais enfin... on se trouve sur des problèmes agricoles, la question des intrants. Et donc, il y a dans certaines zones des problèmes qui s'opposent, de la production agricole et de la pauvreté. Est-ce qu'il faut tester des systèmes de ce type ou se poser la question des inégalités des termes de l'échange, des spéculations sur les matières premières, de la dépossession massive des terres pour une façon grassissante de la petite paysannerie, d'une agriculture productiviste qui a des conséquences en matière d'environnement et de santé publique? C'est sans doute pas avec des tests de ce type qu'on résout ce genre de problème. On est sur la base de choix politiques, hein, sur ces éléments-là. Alors, et donc là, je dois avoir épuisé mon temps, hein, c'est ça? Voilà. Donc je vais terminer. Alors il y a un terme que je n'ai pas employé, mais le terme anglais qui est utilisé par eux, c'est nudge. Nudge, c'est un coup de pouce. Donc, vous voyez, il faut faire des nudges, il faut inciter. Alors je crois vraiment que j'ai consacré un ouvrage, hein, l'économie comportementale en question, à ce type d'approche, parce que j'ai été fortement énervé par les écrits de certains collègues, par la façon dont la Banque mondiale, certains gouvernements, présidents, etc., s'emparent de la chose, parce que quand vous dépensez 500 000 dollars ou 2 millions de dollars, ce que vous dépensez pour un type de recherche, vous ne dépensez pas pour les autres. Hein, donc... je sais bien qu'il y a un journaliste à BFM Télé, il a dit « Ah, le livre, il est très bien, mais il a un esprit syndicaliste, c'est pour défendre ses collègues. » Non, c'est pas pour défendre mes collègues, je suis retraité. En fait. C'est simplement pour défendre une diversité de la pensée. Parce que si vous développez ce type d'approche, vous n'en développez pas une autre. Bon, les moyens sont limités, même si, pour des raisons que vous pouvez comprendre, des fondations. Et donc, je crois aussi que ce qui manque à cette nouvelle discipline de l'économie, c'est une pensée interdisciplinaire. Pour moi, une pensée interdisciplinaire, c'est pas d'additionner la sociologie, la démographie, oui, on peut le faire, l'histoire, machin chose, je t'additionne tout ça et je te fais de la bouillie pour les chats. Hein, oui, parce que si vous avez... Pourquoi ? Parce que chaque discipline, courant des disciplines, a des lunettes différentes. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que les faits sociaux, et économique, etc. Ils n'existent pas comme cette table, comme cette chaise. Nous, en sciences sociales, nous travaillons avec des hypothèses qui construisent ces objets. Et le propre de l'interdisciplinarité, c'est de révéler cette hypothèse. C'est de révéler les échelles auxquelles on travaille. Et ben, c'est comme dans d'autres disciplines, vous ne regardez pas la Lune avec un microscope. Hein. Donc, selon les c'est-à-dire que l'outil construit cet objet. Il faut pas, le travail n'existe pas en soi. C'est tout un tas de pensées, etc., qui ont construit cet objet-là. Et eux, en quelque sorte, quand vous regardez leurs questionnaires, quand vous regardez les arguments qu'ils développent, etc., c'est comme s'il y avait une réalité en sciences sociales. Non. La limite des sciences sociales, c'est la nécessité d'une idéologie. Et qu'est-ce que c'est qu'une idéologie ? Idéologie. C'est une logique des idées. Et donc, on est toujours l'idéologue de quelqu'un d'autre. Eux, ils prétendent ne pas être idéologues. C'est impossible. Impossible de ne pas avoir une idéologie. Et le problème, disons, c'est de révéler en quelque sorte cette idéologie et de prendre conscience aussi des limites de sa propre logique des idées, c'est-à-dire de son idéologie. Merci pour votre attention et donc il y a un système de questions. Question par question, sauf s'il y avait une question qui serait extrêmement similaire à celle-là. Donc, on ne va pas reposer. Enfin, je veux dire, je réponds. S'il n'y a pas de question, je réponds tout de suite. Je le dirais très clairement. En France, je vous l'ai dit, ça n'a pas marché jusqu'à présent. Hein, mais certains sont allés à l'Élysée plusieurs fois, pas moi, hein, mais notamment un des responsables économiques de l'AFD pour expliquer au président Macron qui était un peu convaincu que c'était dangereux. Que c'était dangereux parce que c'était scientifiquement, il y avait des limites et que c'était extrêmement coûteux avec les conséquences. Mais si vous prenez l'Angleterre de Cameron, je ne sais pas où c'en est maintenant avec l'évolution nouvelle, mais la nudge unit, toute décision importante devait être testée par des méthodes de ce type au Royaume-Uni. Donc voilà, pour nous, on a senti le danger. Et c'est pour ça qu'on... Enfin, je veux dire, moi, quand j'ai lu le rapport... Mais quand vous regardez à la Banque mondiale, les études qui sont faites... là, je n'ai pas projeté de PowerPoint, etc. Mais vous voyez, au cours des 20 dernières années, d'où le rapport qui a eu lieu en 2015, une croissance de ces techniques-là dans les investigations de la Banque mondiale. Une croissance certaine. Alors que le microcrédit, dont je ne suis pas d'ailleurs un spécialiste, ce qui était amusant, c'est d'entendre la Banque mondiale dire « Ouais, le microcrédit, c'était 2% des dépenses de la Banque mondiale. Hein. » Alors, il fait des discours soutenant Younous, etc. Mais quand vous regardez les affectations de sommes, ça n'a rien à voir. Là, c'est tout à fait différent en matière de recherche. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais si, je veux dire, moi, quand j'ai lu le rapport en 2015 de la Banque mondiale, un rapport sur le développement, hein, qui mettait ça en avant, enfin, mais je me suis dit, mais c'est dangereux, enfin, disons, d'où j'avais autre chose à faire, mais je me suis abusé, entre guillemets, avec ça. Je vous ai expliqué que j'avais quelques temps à l'époque pour faire ça. Mais oui, si je regarde la Banque mondiale, si je regarde etc., si vous voyez, une croissance très très forte, d'où le danger. Parce que je dirais le danger, il est aussi là. Je pense que la démocratie moderne doit être fondée sur ce qu'on appelle des parties prenantes. C'est-à-dire que on ne doit plus être dans un vote majoritaire, hein. Pouf, tu as 50% des voix plus une et tu vas décider pendant 5 ans, 10 ans, etc. Ce qui est bon pour l'humanité. Le risque, il est là, vous voyez, c'est-à-dire une majorité dominante qui utilise ces techniques-là, mais taisez-vous, la science a prouvé que c'était bien. Voilà, donc c'est cet élément-là qui aussi, parce que...
L'occurrence, ils n'ont même pas besoin de la science pour faire ça, quoi, aujourd'hui.
Oui, oui, bah, c'est la domination des experts. C'est-à-dire que face aux experts, je crois aux parties prenantes décidant dont les monnaies locales sont un exemple de fonctionnement par partie prenante. Je crois, je ne sais pas s'il est encore sorti, j'ai une interview assez longue dans la revue écologique sur la démocratie par partie prenante dans le dernier numéro, le prochain numéro, donc si certains s'intéressent. Voilà, c'est ça. Et c'est dirigé directement contre la domination de l'expertise.
Bonjour, alors je suis professeur de sciences économiques et sociales au lycée. Une petite question du coup qui rebondit peut-être sur l'aspect un peu politique dont vous avez parlé, l'aspect idéologique qui est effectivement sous-entendu derrière toute théorie, tout développement, que ce soit en économie, en sociologie, en sciences politiques. Mais du coup, aujourd'hui, il me semble qu'on est, alors du côté de la recherche en économie, quasi exclusivement sur justement le développement de petits modèles de ce type. Qu'aujourd'hui, si on cherche à développer des thèses hétérodoxes, c'est quasi impossible de trouver des financements, un directeur de thèse, ce genre de choses. Qu'on a une domination au sein du conseil du CNU, le Conseil national universitaire, qui va désigner aussi les professeurs, ce genre de choses. Donc on a un rôle un peu politique aussi. On a du côté de l'éducation nationale, à l'échelle du secondaire au lycée, un Philippe Agion qui a orienté un peu quand même en un sens le type des programmes proposés aux élèves en économie. Ma question du coup finalement c'est derrière, comment on fait derrière pour faire face à ce discours ultra dominant? On a déjà des voix qui s'élèvent de plusieurs économistes, mais c'est assez inaudible, j'ai l'impression, et en même temps ça se comprend puisque ce genre de bisbille, de différence entre économistes, le commun des mortels qui n'a pas étudié l'économie en particulier n'est pas forcément au courant, ne comprend pas forcément, et donc le journaliste de BFM TV qui va vous traiter de syndicaliste, difficile de remettre en cause sa parole si on n'a pas plus d'éléments que ça. Donc, que faire face à ça?
Que faire, c'est une belle expression, donc historiquement marquée. Je dirais que ce n'est pas nouveau. J'ai fait ma carrière en France, etc. Et mon directeur de thèse me disait déjà à l'époque, il faut que tu fasses des modèles, parce que, etc., etc. Certains ont peut-être lu ici Marx. À la fin de la section 1 du livre 1 du Capital, il cite Dante. Et Dante dit « Lascia dire la gente e segui il tuo corso. » Laisse dire les gens et suis ton chemin. Donc, ce n'est pas facile. On a des carrières qui sont plus difficiles. Je suis l'exemple. J'ai terminé comme etc., prof depuis longtemps. Je suis prof depuis 1990. Mais j'ai entendu ces conseils-là aussi. Moi, je n'ai jamais eu idée qu'il fallait faire des thèses sur des sujets inintéressants pour faire carrière. Il y a de quoi faire un burn-out. Enfin, à l'époque, ça n'existait pas. Mais je vais dire, c'est... Alors, ce n'est pas facile. C'est pas facile, je le reconnais, mais je crois que il faut essayer d'avancer. Souvent, on m'explique que c'est plus dur aujourd'hui qu'hier. Non, je le recommande. On se faisait. Il y avait un de mes collègues qui avait écrit un article, qui avait proposé à une revue très standard en économie, ça s'appelle la Revue économique. Et à l'époque, quand vous envoyez des articles, ils vous retournaient annotés à la main. Donc éventuellement, vous pouviez identifier les écritures, ce qui aujourd'hui est différent. Et le commentaire qu'il avait écrit en marge, celle qui était prof à Paris Dauphine, dont la fille est aujourd'hui ministre de la Défense. mais la fille est pour rien pour la mère, mais enfin, bon, Madame Parly, avait écrit en marge, on reconnaît bien là les thèses de l'école de Lyon. Et je dirais, quand je regarde le contenu de, c'était pas un de mes articles, c'est un collègue qui l'avait fait, le contenu de l'article sur les thèses, je dirais que ceux qui travaillent sur la monnaie, aujourd'hui, trois quarts partagent les idées qu'on avait sur les définitions de la monnaie qu'on avait. Voilà, c'est ça. Alors, comme m'avait dit quelqu'un une fois, il faut jamais avoir raison avant les autres. C'est mieux peut-être que d'avoir raison après, je sais pas, mais c'est... Voilà. Non, je ne sais pas. Il ne faut pas désespérer. Je veux dire, je suis obligé de faire un peu parano, mais comment je suis devenu prof? Parce que je suis un historien de la pensée économique. Voilà, c'est aussi ça. Et donc, j'étais reconnu. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire des travaux dans certains secteurs, faire pas que ça, justement, qui font qu'on peut être reconnu. Il y a 15 jours, j'ai fait une conférence à Montpellier. J'ai été introduit d'ailleurs de la façon suivante par quelqu'un, un collègue, mais gestionnaire. Il a dit, la première fois que j'ai vu Jean-Michel Servais, je pensais qu'il y avait un homonyme, qu'il y avait deux Jean-Michel Servais. Il y avait un Jean-Michel Servais qui faisait de l'histoire de la pensée, des machins sérieux, en quelque sorte, et puis un autre Jean-Michel Servais qui intervenait sur les selles, sur les monnaies locales, sur le microcrédit, etc. Et il pensait que c'était deux personnes différentes. Voilà. Donc je crois qu'il y a des compromis à passer. Oui, certes. Voilà. Il faut savoir passer les compromis pour passer la filière. Et il ne faut jamais désespérer et toujours combattre, y compris dans le domaine des idées. Voilà ce que je dirais. C'est parfois plus facile à dire qu'à faire, y compris pour l'entourage. Mais voilà, c'est... il ne faut pas penser que c'est pire aujourd'hui qu'avant. Voilà ce que je dirais.
Est-ce qu'il y a un rapport entre ce courant de pensée comportementaliste et ceux dont j'oublie toujours le nom, qui ont écrit sur le négationnisme en économie?
Alors attends, négationnisme... J'ai bien connu Notin sur le négationnisme à Lyon 3, mais négationnisme...
Non, en économie, là, c'est
deux... Ceux qui faisaient...
Silverberg, je crois, et puis l'autre...
Alors, mais attends, ceux qui faisaient, par exemple, s'il n'y avait pas eu les trains, qu'est-ce qui serait passé?
Non. Négationnisme en économie, c'est... La plupart des économistes hétérodoxes sont des gens extrêmement dangereux.
Zilberberg, etc. C'est assez drôle parce que les gens qui combattent les courants, qui critiquent en quelque sorte l'économie comportementale, etc., Jean Zilberberg, il faut chercher dans ses œuvres complètes, il n'en a jamais fait. Il défend un projet scientifique que lui-même n'a pas fait. Et Cahuc, qui est l'autre, Pierre Cahuc, hein, c'est la même chose. Enfin, il l'a fait plus, si, Cahuc l'a fait plus, mais Zilberberg, il ne l'a pas fait. Donc, je veux dire, aller vanter quelque chose qu'on n'a pas fait soi-même, bon, voilà, c'est... je ne ferai pas de comparaison religieuse dans les ordres religieux, mais bon, ça pose un certain nombre de problèmes, en quelque sorte. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta... Mais effectivement, ils défendent dans le sens de ta question. Je tutoie parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Donc, dans le sens de ta question, je dirais oui, ces gens-là critiquent les positions qui sont les miennes et défendent des gens comme Duflo, etc., comme étant la seule science. C'est-à-dire que des gens comme Cahuc, Zilberberg, ils ont fait un bouquin, pour expliquer qu'il fallait arrêter, en quelque sorte, hein, c'était ça, de subventionner les gens qui avaient déjà proche, par exemple, socio-économique, c'était de l'anti-science, seul le chiffrage et des expérimentations et des choses comme ça, c'était la science. Donc effectivement, dans ce que défend Cahuc et Zilberberg, et maintenant j'ai compris la question, oui, c'est vrai qu'à l'époque on avait parlé de négationnisme, etc.
Mais c'est eux qui appelaient le mot. Hein.
Ils défendent ces gens-là, mais... Cahuc l'a un peu pratiqué, Zilberberg pas du tout.
Bonjour et merci. Moi, je voudrais intervenir sur un champ un peu différent, particulièrement français. C'est le fait ce ne sont pas toujours les politiques qui sont à la manœuvre. Parfois, c'est d'autres forces. Quand un milliardaire comme Kretinsky tente à prendre le contrôle du journal Le Monde, quand Patrick Cohen et Nathalie Fontrel sont virés de France Inter. Derrière ça, je voudrais savoir ce que vous pensez de la saga, par exemple, pour ne pas dire le thriller du train à hydrogène. Les derniers... Je parle de thriller parce qu'il y a eu le projet de fusion de Siemens et Alstom. Maintenant, il y a le raid d'une entreprise qui était moribonde il y a quelques années, qui fait un raid sur Bombardier, le Canadien. Il y a eu aussi Siemens qui s'est emparé des... Enfin, qui a repris le projet des éoliennes du Tréport après General Electric, qui est parti effrayé par l'armée d'avocats anonyme qui l'attaquait sur les éoliennes du Tréport et qui a licencié 3000 personnes en France après les Portugais en 2002. On n'a pas beaucoup parlé d'ailleurs de Nicolas Hulot qui s'était rendu en 2018 au Tréport. On a parlé surtout des chasseurs et du glyphosate. Enfin, je pense que l'information, la liberté de l'information et la démocratie française s'arrêtent là où commence l'énergie. Et je voudrais savoir votre opinion sur la question.
Alors, je ne suis pas... je pourrais faire café du commerce et discuter de ce genre de choses. Je ne suis pas... Je suis un spécialiste de la finance, de la monnaie, hein, donc, et donc éventuellement de...
Oui. Excusez-moi, je suis physicien, justement.
Mais oui, et sur... Évidemment, j'ai des convictions. Si vous cherchez, je suis membre du conseil scientifique de Zoin, qui est conseil scientifique qui est présidé par Dominique Bourg, qui a été candidat à la présidentielle sur l'ultra-écologie. Donc, j'ai certaines convictions personnelles. Hein, c'est un élément... Le tiers de ceux qui siègent dans cette fondation sont d'ailleurs des proches de Nicolas Hulot. Enfin, c'est pas, moi, je ne le connais pas, hein, mais enfin, je veux dire, pour vous mettre les éléments... Mais je ne me prononcerai pas sur les éléments de l'énergie. Mais c'est vrai qu'il y a des moyens très importants. Tous les jours, je reçois de la propagande pro-nucléaire qui est financée par je ne sais pas trop qui. Il y a un site, là, spécialisé. Oui, alors ils ont les moyens très, très importants. Oui, ça, c'est vrai, au niveau de la presse, etc. Mais quand même, moi j'ai espoir. Il y a des fake news, mais il y a aussi la possibilité d'agir pour diffuser des éléments de ce type. Et on arrive quand même. Je suis un opposant, je ne vous surprendrai pas, à la réforme française actuelle des retraites. J'ai fait un article dans Le Monde qui s'appelait... Vous pouvez chercher « Richesse des nations et réforme des retraites », où j'ai combattu le projet sur la base de la pensée d'Adam Smith, 18e siècle, en disant que ce projet, à aucun moment, ne traitait de la productivité du travail. Qu'on nous expliquait que les gens vivaient longtemps, mais on ne tenait pas de compte du fait qu'il y avait un accroissement. Eh bien, il ne faut pas désespérer. Je ne dis pas que mon article ait eu un effet direct, mais peut-être indirect. À ma connaissance, ça m'a été indiqué par le journaliste du Monde qui avait fait publier l'article, etc., l'unanimité de l'Assemblée nationale dans l'article 1 a rétabli la productivité du travail comme critère d'évolution des retraites. Donc il ne faut pas désespérer. Hein. Là, j'étais content parce que je me disais, vous savez, pour écrire un article en 6000 signes, je vous recommande, hein, ça fait 10 000 au départ et vous passez des heures, même si le journaliste vous aide un peu pour réduire. Hein. Mais voilà. Donc, je vais dire, Le Monde qui a des fans, il y en a qui m'avaient dit, c'est même pas la peine que tu essayes au Monde, bon, etc. Si, autrement, j'aurais passé, j'ai publié pas mal dans Le Temps de Genève, mais ça n'a pas le même effet. Mais si, il faut jamais se décourager. Je le dis, il y a ici des gens beaucoup plus jeunes que moi. Et je dirais, c'est ce message qu'il faut porter. Hein, si on se dit c'est foutu, c'est pas la peine. Alors à ce moment-là, on se suicide tout de suite. Hein. Je sais pas si ça répond. Je ne peux pas répondre sur les gens. J'ai conscience du poids du nucléaire en France parce que les intérêts économiques, je reçois tous les jours. Hein, je les lis. Je les lis parce que c'est très important de regarder ce que j'appellerais la pensée de l'adversaire. Donc il ne faut pas les négliger, il faut voir les logiques, c'est ce que j'ai fait dans ce bouquin d'ailleurs, voir les logiques à travers lesquelles ils fonctionnent. Mais voilà, bon, après il y a des puissances d'argent, mais quand je prends ceux qui sont de l'autre côté, etc., par exemple, sur du flot et une étude faite au Maroc, ce qui s'est passé, c'est que l'Agence française de développement a voulu tester la méthode du flot. Donc sur le microcrédit, ils ont mis les moyens très importants pour tester la méthode du flot. Et des gens qui me sont proches, anciennes doctorants, etc., ont monté une équipe à la demande de l'IALI, Institut de Recherche pour le Développement, à la demande de l'Agence française de développement, pour faire la contre-expertise. Et ce qui s'est produit, c'est que l'AFD a exigé de l'équipe du flot que tous les documents, y compris les emails échangés avec l'organisation de microfinance, y compris avec les chercheurs, etc., soient transférés à l'équipe qui évaluait. Et elles ont fait un article dans mais elles, comme elles sont majoritaires, j'ai tendance à parler comme ça, voyez, parce qu'en français, c'est quand même curieux, vous voyez, 40 femmes sont montées dans le bus avec un chien, et au prochain arrêt, ils sont redescendus. Il y en a qu'il ne faut pas faire du français inclusif, mais enfin quand même. Donc c'est cet élément-là. Elles sont arrivées à prouver la manipulation, c'est dans un article qui a été publié, qui a été fait des chiffres, parce qu'elles sont allées voir les endroits où les questionnaires avaient été remplis par le chef de quartier. Bah oui, il sait comment les gens pensent. Hein. Donc, ouais, c'est ça. Hein. Donc, je veux dire, non, je désespère pas. Vous voyez, il faut quand même quelques soutiens. Et c'est vrai qu'on avait un soutien important avec Giraud, qui était à la tête, chief economist, je ne sais pas comment dire en français. Il n'y est plus, il a démissionné parce que, depuis l'automne, hein, parce qu'il ne pouvait plus faire avancer ses idées. C'est lui qui allait souvent à l'Élysée, hein, d'après ce qu'on m'a expliqué pour Saint-Jésuite, hein, par ailleurs, et un CNRS. Eh bien, je vous recommande ses travaux. Hein. Ben, lui était porte-parole. C'est lui qui avait contacté les prix Nobel pour co-signer l'article, etc. Donc, vous voyez, il faut se battre, d'accord, hein. C'est jamais désespéré, jamais. Sinon, oui.
Oui, alors, bonjour.
Vous avez vu comme les questions sont genrées. Je ne sais pas si c'était de l'économie. Je n'ai eu aucune question féminine. Je sais bien qu'il ne faut pas se fier aux apparences, oui. Mais... D'après ce que j'ai vu, non, c'est pas pour que vous ne posiez pas la question.
Bonjour, Jean-Pierre Cartier, je suis architecte, donc je n'ai pas de notion d'économie précisément. Je voulais juste savoir, vous, en tant que financier, est-ce qu'il existe des études à l'échelle mondiale qui nous permettent de savoir, en termes de liquidité, puisque vous parlez de liquidité tout à l'heure, combien de masses financières sont détenues aujourd'hui par des fonds de pension, d'une part, d'autre part par des États, d'autre part par des organisations non gouvernementales, au regard de ce que pourraient avoir les entreprises, les travailleurs, qui eux dépendent entièrement actuellement de ces liquidités.
Alors, il y a des statistiques qui sont publiées, hein, ça vous les trouvez, y compris Fonds monétaire international, Banque mondiale, etc. Le problème, c'est quand vous agrégez ces données-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut les regarder, je dis qu'il faut les voir, mais les prendre avec un grain de sel. Quand vous savez que le total des exportations mondiales n'est pas égal au total des importations mondiales, ça pose problème sur les statistiques. Parce que, bon, je veux dire, sauf à croire aux Martiens qui en prendraient une partie. Donc voilà. Moi, ces statistiques, je les regarde. J'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Le grand renversement sur la crise de 2010 ». Évidemment, je me suis servi de données chiffrées. Parce que comment... Mais c'est vrai que dès 2005-2006, je suis de ceux qui ont anticipé la crise, qui ont dit « ça peut pas... » Moi, je regardais des données, c'est pour ça qu'il y avait un tel déséquilibre entre le réel et le financier que je disais « non, mais attendez, ça va exploser ». Alors, je voyais des gens à Genève leur poser la question « ouais, t'as raison, hein, mais bon... » Mais j'ai pas été... J'étais pas capable de prévoir que ça serait sur l'immobilier que ça craquerait, comme aujourd'hui, on n'était pas capable de prévoir qu'il y aurait une épidémie qui fait un effet économique de ce type. Mais il faut les regarder, les données. Mais il faut les regarder avec des grains de sable. Hein, de se dire, c'est pas... il ne faut pas se laisser dominer par les statistiques, mais il faut quand même avoir l'idée des grandeurs. Par exemple, j'évoquais, je crois, tout à l'heure, le fait que des sociétés rachètent leurs propres actions. On a des chiffres sur les États-Unis, c'est absolument stupéfiant. En France, c'est beaucoup plus faible pour différentes raisons, etc. Mais ça fait monter les cours. Alors, il y en a qui disent c'est magnifique. Donc il faut les regarder, ces données-là. Voilà, mais je comment dire, dans mes études, je suis partisan surtout de la micro-observation. Et quand j'ai voulu voir comment les gens épargnaient, puisque je suis un spécialiste des questions de développement, je suis allé vivre deux fois un mois dans un bidonville du sud du Sénégal. Bah, c'est-à-dire que je ne suis pas allé comme ça me promener de temps en temps. Hein. Du matin au soir, j'ai vécu avec une famille. Et il y a comme ça, hein, quand vous voyez les gens au jour le jour, que vous pouvez le voir. Mais par exemple, mes étudiants africains qui sont venus après, bah, ils n'ont pas voulu vivre dans le quartier. Ils avaient loué, bah, ils y allaient la journée, bah, alors vivre dans un truc où vous avez l'enclos à cochon qui est à côté du puits. C'est vrai que bon, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Quoi. Mais voilà, mais donc je crois à la micro-observation, au micro-détail. Hein, c'est un élément, je suis micro-économiste, mais pas au sens habituel du terme hein, pour le collègue, mais je crois que la micro-observation, qui est beaucoup moins coûteuse hein, comme technique, permet de révéler le macrocosme. Hein, c'est un élément. Alors il ne faut pas en rester là, il y a des logiques globales, il faut en tenir compte. Les chiffres nous permettent de voir un certain nombre, mais il faut les prendre avec réserve. Mais eux, par exemple, ils sont aussi sur le micro, la micro-approche, hein, vous l'avez compris, hein, c'est le retour du micro. Mais donc je suis pour un micro, mais beaucoup plus fouillé. Quand j'avais des doctorants qui faisaient des thèses à une époque, etc., je leur disais, quand ils commençaient, je leur disais, pour faire le travail qu'on fait, qu'on souhaite faire, il faut l'amour du prochain et l'amour du lointain. C'est-à-dire, il faut la distanciation et en même temps l'affect qui permet de comprendre comment vivent les gens. C'est comme ça. Ce que je vous ai dit sur l'épargne, sur l'or en Inde, etc., c'est du vécu par rapport aux gens qui m'entouraient. Quoi, hein. C'est ça.
Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui.
Ah ben voilà, elle va être.
Voilà. Alors, ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question, parce que moi, je suis artisane métier d'art, et je ne connais rien en économie. Et je suis venue accompagner mon ami à cette conférence, et je voulais vous remercier. Parce que, voilà, c'est une ouverture.
Okay.
Et je vais m'y intéresser un peu plus.
Voilà. Il y a plusieurs, je fais pas mal de conférences parce que je pense que c'est important. Et il y en a plusieurs qu'on trouve sur le net. Si vous cherchez Jean-Michel Servais sur vidéo, vous trouvez des conférences. La dernière que j'ai faite, je crois que j'ai évoqué, c'est celle de Montpellier. C'est de l'autre côté du miroir, c'est argent versus monnaie. C'est comment au sud, des populations sauvages, et j'ai lu notamment pour l'affaire des textes de Canadiens, d'Indiens canadiens de la fin du XVIIe siècle, ont vu notre argent. Parce que souvent, on se pose, c'est nous qui portons un regard, et j'ai pensé, donc, qu'il y a un certain Condiaranc, hein, qui a été interviewé, pour dire, à la fin du XVIIe siècle, par le baron de Lahontan, et c'est absolument prodigieux. Hein, c'est comme vous avez sur les îles du Pacifique, c'est important de regarder le regard des autres. Seulement, vous avez quelque chose qui s'appelle le papalagui. C'est comment un chef des îles du Pacifique, hein, a fait des discours, on pense qu'ils ont été un peu aménagés, mais enfin peu importe, par un Allemand, mais nous regardons. Hein, et ça, c'est essentiel de porter ce regard, parce que nous sommes tous humains depuis 60 000 ans. Merci pour votre remarque, chef.
Est-ce que vous faites la dédicace ? Oh, bah, si, ouais.